Toi, tu sais ce que t'es, un délinquant.
Oui, alors on dit que c'est un mec méprisant, un but de sa personne, etc. D'accord, mais quand tu te fais masser les pieds par ta femme avec des tchouches galbées comme ça, dans un jet privé, et qu'en plus elle gère tes aventures extra-conjugales à ta place, elle te ramène des minettes, on n'a pas vu ça depuis Sartre et Beauvoir, et que toi t'es tranquillement avachi comme un limaçon dorloté par le destin favorable, j'ai frais, tu te sens frais. J'ai très frais. Bah, de toute façon, tous les j'ai frais, c'est des méchants et des bad boys. Jeffrey Baratheon, Jeffrey Dahmer, Jeffrey Epstein. Dès qu'un mec s'appelle Jeffrey, il manque d'empathie et il a une propension à mettre des coups critiques à tous ses adversaires. What's your name? Jeffrey. T'es frais qui? Tu vois? Il aurait pu s'appeler j'ai peur, ou j'affole, ou j'ai froid. L'effroi, c'est plus intense que l'effraiement dans le champ lexical de la peur. Mais j'ai froid, non, ça marche pas. J'ai pas froid. Vu ses soirées, il avait chaud probablement. Générique. Bientôt, je vais en Thaïlande et je me disais, si Epstein n'est pas mort mais a été exfiltré par des reptiliens lubriques, vu qu'il aimait par-dessus tout les massages dans le plus grand des calmes, je me dis que peut-être il a été envoyé couler des jours heureux en Asie du Sud-Est et que je risque de me retrouver nez à nez avec lui dans un salon de massage. Alors, je sais pas ce qu'on va bien pouvoir se dire, moi je vais lui demander peut-être est-ce que t'as pas encore des contacts qui te restent. On va peut-être se regarder, se jauger notre jawline un peu comme ça. D'ailleurs, faudra bien vraiment une distance de sécurité entre nous, vu le galbe de nos mâchoires. Parce que j'ai envie de vous dire, parfois deux paquebots dans le même port ça passe pas. Alors, à la limite, faudra qu'on se mette des bougnafles marins sur notre jawline. Pour éviter un gros choc et un séisme de 9,5 sur l'échelle de Richter. Tu vois, comme quoi, grâce à moi, Jeffrey Epstein il peut faire une bonne action et sauver son âme, qui est le mal absolu selon Paul Adrien. Ce que je crois pas, moi je pense juste qu'il a fait du mal à la hauteur de ses moyens limités. Mais faire de lui le mal absolu, ça procède du même niveau d'analyse qu'une autrice de Dark Romance pourrait faire de ce type de personnage en faisant un mec à mi-chemin entre le Daddy Dom de Foria, le Marquis de Sade et la figure du vampire BG. Et je dis BG parce que c'est ce qui caractérisait Epstein. Si c'était un mec séducteur, machiavélique et compagnie, c'est avant tout parce qu'il avait le final pack menton plus jawline du boss final. À côté, Tony Robbins, c'est une touillette de café. Le mec, c'était un mélange entre Joe Dassin Prime, Ben Stiller Max Luxé, qui a vieilli dans un mix de George Clooney et de Richard Gere. Tu veux quoi de plus? Sans déconner, quand j'ai vu cette photo, j'ai cru que c'était l'affiche du nouveau James Bond, baiser mineur en do majeur. Bon, en gros, je dévie un peu, mais premier degré, le complot game du est-ce qu'il a été suicidé, etc. Moi, j'y crois pas un instant. Un mec de 70 ans dans sa cellule, comment il a fait ça avec du PQ? Moi, j'y crois pas. Je pense que soit il a été buté, soit il a été exfiltré. En plus, les gardiens, les geôliers en Amérique, tu les corromps comme tu veux, c'est des mecs obèses, tu leur mets deux menus maxi best-of, tu saupoudres un peu de mélatonine à la place du sel dans les Big Mac, pour être bien sûr que les mecs, ils roupillent et tout, qui s'endorment et qui te cassent pas les couilles, c'est pas dur à faire. Et j'ai compté, j'ai bien fait mes calculs, ça revient à 30 euros. Et Epstein était milliardaire, il avait complètement les moyens d'endormir de geôliers. En plus, c'était des mecs, soi-disant, ils devaient surveiller la cabine, particulièrement ce jour-là. Et les mecs disaient qu'ils étaient endormis, qu'ils ont pas vu. Mais attends, on prend les gens pour des teubés. Hey, quand les complotistes, ils ont raison par moment, faut le dire, faut l'avouer, faut l'admettre. De toute façon, moi je dis, les gens, ils suivent l'affaire Epstein comme un feuilleton. Les gens, ils aiment ces personnages. La preuve, en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a élu un mec qui a une espèce d'intelligence et qui est passé par la banque, mais qui c'est pas vraiment un matheux, c'est pas vraiment un autiste, c'est plus un charmeur. Il a un bon menton, il a une bonne jawline. Les gonzesses, elles ont voté pour lui parce qu'il est beau. Je veux dire, Macron, c'est l'avant-évolution de Jeffrey Epstein. Macron, c'est un vodka pomme. Epstein, c'est un double vodka pomme. En gros, Epstein, c'était un chargé d'événementiel et luxure en cosmopolitisme élitiste judéo-concupiscent. Voilà. Ce mec, il donne du pain à tout le monde. Au féminisme, parce que c'est un homme toxique. Au complotiste, parce qu'il a des photos avec Jack Lang et avec Michael Jackson. Il y a des mecs qui vont sortir des photos avec Hitler, probablement. Aux anti-juifs, parce qu'il méprisait les goy dans certains mails. Aux anticapitalistes, parce que c'était un businessman qui était dans la banque à un moment donné. Moi, je vous dis, l'année prochaine, s'il est pas mort, on le voit chez Guillaume Play. Et en réalité, la question morale, moi j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que quelque part c'est secondaire, c'est les potins que les gens ils aiment. C'est qui a fait quoi dans les gens qui connaissaient Epstein? Y'a Mick Jagger, Trump, Michael Jackson, Clinton, machin. Bon, y'a peut-être des gens qui débarquent avec cette affaire et qui sont subjugués par l'ombre du complot mondialiste des élites qui ferait des trucs à Baphomet dans des soirées, machin chouette. Mais revenons un petit peu, mettons les pieds sur terre, faut pas faire les vierges effarouchées. Sur l'aspect sexe, en gros, on est dans l'univers des promotions canapés où y'a plus de canapés que de promotions. Des entourloupes de manipulation de meufs bonnes, jeunes, machin, qu'on ramène dans des milieux de riches pour les amener à se faire consommer par des vieux riches, etc. Bon, c'est un milieu toxique et tout. Il y a des meufs qui témoignent sur LCI, elles ont eu affaire à Epstein, etc. Elles se sont barrées à temps. À d'autres moments, il y avait des meufs très jeunes recrutées. Bon, ça allait un peu basculer vers le sordide, mais en fait, dans cette histoire, dans cette affaire, il y a à boire et à manger, il y a de tout. Mais moi, pourquoi ça me choque pas du tout, par exemple? C'est que de ma toute petite expérience, des mecs, genre producteurs avec un peu de pouvoir, qui sont obsédés, exuels, forceurs et compagnie, machin truc, genre j'en ai rencontré personnellement. Et des mecs, par exemple, plus jeunes, un peu mondains, pas forcément des vieux producteurs, mais qui sont dans un délire, on est au-delà de la morale, ou André Gide, Mads Neff, etc., machin. J'en ai vu quelques-uns aussi. Et je dis ça à mon tout petit niveau. Donc franchement, des trucs de cette envergure, ça me choque pas du tout. Sur le volet sexe de l'histoire, en fait, c'est juste des puissants impuissants qui profitent de ces réseaux et de leur argent pour essayer de tartiner, parce que sinon, ils peuvent rien faire du tout. Alors Bill Gates, c'est ça, c'est un puissant impuissant qui se sert de son argent et de ses réseaux pour essayer de tartiner des meufs. Le mec, il a chopé une MST et il a mis un vaccin à sa meuf en loose day sans qu'elle le sache, à sa femme. C'est des trucs un petit peu ridicules si on y pense. Et en fait, des réseaux comme ça, on en parle beaucoup parce qu'on narratise le truc et tout ça, mais ça date pas d'hier, ça a toujours existé, mais c'est horrible, hein, mais ça a toujours existé. Ça existe encore aujourd'hui à l'heure où vous regardez cette vidéo, dans des pays, il y a du trafic d'êtres humains, des trucs machin, et ça continuera à exister demain dès que des gens ont du pouvoir et pas de morale. On peut pas les forcer à en avoir de toute façon. Et quand j'entends des gens, des kidam s'offusquer et dire qu'il y a certaines personnes qui font partie des élites qui savaient et qui ont rien dit, ouais, ils savaient tous et ils ont rien dit. Mais je veux dire, c'est une réaction qui est normale, spontanée et pas malsaine, mais elle est un peu immature. En fait, faut comprendre la psychologie des gens. Des gens qui fréquentent le milieu des élites. En fait, quand t'es dans le milieu de la haute et des élites et qu'il y a des mecs aussi puissants que ce genre de personnage, tu sais qu'il est populaire, successful, BG, aimé, riche, qu'il a une intelligence sociale, etc., des moyens, c'est un organisateur et tout. C'est un mondain, machin, t'as le bon contact. En même temps, tu sais que le mec, il a une dark side. Tu sais pas exactement jusqu'où va le gouffre, mais tu sais juste qu'il a une dark side. Ça se sait un peu dans les milieux quand il y a des soirées. Après, il y a des afters, un peu comme P. Diddy. Il y a des backrooms, il y a des machins, il y a des trucs bressons. Les gens, ils savent ça, ils sont dans le milieu. Ça va être peut-être des hommes politiques, des riches quelconques, des stars, des journalistes vraiment huppés, des ministres, j'en sais rien. Et en fait, dans le privé, quand t'as une personne comme ça et que tu bénéficies de ce milieu, de ce petit monde, c'est dans l'intérêt de personne et personne va le faire de s'opposer à une structure machiavélique comme ça dont tu bénéficies parce que par ailleurs elle a une espèce de dark side avec des afters, des backrooms et des trucs. Et c'est normal que tout le monde savait, personne ne le disait, mais tout le monde savait, ça veut pas dire que tout le monde était dans des loges à regarder des trucs sordides et des sacrifices d'enfants. Non, c'est juste on sait que dans ce petit milieu, Epstein il a des hobbies un peu bizarres et en plus à l'époque il y avait même pas MeToo, etc. Donc les gens qui fréquentent un peu ces milieux là, ils le savent mais ils font rien tout simplement. Personne n'a rien fait et tout le monde savait plein de trucs. Et il y a aujourd'hui des gens qui savent plein de trucs et qui disent rien et qui font des émissions sur le fait que certaines personnes savaient des choses et n'ont rien dit. D'ailleurs, Cohn Bendit, il peut être invité sur LCI. Deux semaines après, les gros titres, c'est ouais, tout le monde savait, qui savait quoi, etc. sur la édophilie de Epstein. Alors que Cohn Bendit et Jack Lang, ils sont invités tout le temps sur LCI, on sait qu'ils sont édophiles. Il y a des extraits vidéo. Donc en fait, tout le monde sait plein de trucs. Les gens s'en foutent en réalité. Donc tout le monde savait que c'était un monde et un réseau dans lequel il y avait des soirées, des prostituées avec des mannequins, etc., qui étaient un peu amenés à coucher avec des mecs. Les gens savaient qu'il y avait une ambiguïté, qu'il y avait un côté peut-être un petit peu malsain, ils soupçonnaient des trucs un peu plus litigieux, un peu plus graves. Mais voilà, ils restaient loin et moralement, ça leur posait pas forcément de problème. C'est comme ça que ça se passe dans une caboche et dans un milieu. D'ailleurs, être choqué de ce qui se passe, c'est un peu déjà, c'est arbitraire. Je veux dire, d'accord, il y a la loi qui pose des limites, mais être choqué par des choses, chacun a ses limites. Il y a des gens, ils sont choqués par une aventure extra-conjugale, il y a des gens, ils sont choqués par un doigt dans les fesses, il y a des gens qui sont choqués parce que quelqu'un couche avec une fille mineure qui a 17 ans, il y a des gens, ils sont pas choqués par un mariage avec des filles de 12 ans ou de 11 ans. Tu vois, c'est arbitraire. Il n'y a pas un parallélisme exact entre le fait d'être choqué et la dose de douleur conséquentialiste qui est répandue dans une action ou dans une autre. On peut être choqué par des trucs qui font du mal à personne et ne pas être choqué par des trucs qui font beaucoup de mal. Voilà, je dis ça comme ça, c'est pas pour faire le relativiste. Hein. Moi, je suis contre, évidemment, les délinquants sexuels et compagnie. Mais je veux juste dire, voilà, faut arrêter d'avoir un discours monomaniaque et sortir toujours la même chose et les mêmes éléments de langage. Donc, les gens qui sont contents de leur petite personne de fréquenter les milieux de la haute et qui savent qu'il y a des trucs qu'on doit pas dire au bas peuple et qui sortent du cadre de la morale, ils le savent très bien. Et en fait, ils vont rien dire parce que sinon, ils sont plus invités et ils bénéficient plus de ce monde d'élite. D'élite cosmopolite. Et chacun laisse faire et agit selon son petit surmoi, sa petite personne, ses petites pulsions et sa petite morale personnelle. Et les gens, quand on essaye de savoir qui s'est mouillé, qui a participé à des trucs sordides, etc., bah, y en a qui ont absolument rien à voir avec ça, et d'autres qui ont mouillé le maillot. Effectivement, quand on voit Bill Clinton et Bill Gates, ils ont l'air de s'être bien amusés avec Epstein. Jack Lang aussi, évidemment, même s'il nie, mais de toute façon, il a marqué dans ses livres et dans des prises de parole, il a signé des pétitions pour l'éducation ex des enfants. Et comme je disais, Jack Lang et Cohn Bendit, ils sont encore aujourd'hui invités sur des plateaux. Et les journalistes qui les invitent sur des plateaux, après, ils mettent en gros titre « Ouais, tout le monde savait pour les histoires avec les enfants, etc., pour Epstein », alors qu'ils invitent des mecs dont tout le monde le sait, et eux-mêmes. Il y a une espèce même de mise en abîme dans le fonctionnement médiatique de tout ça. De toute façon, dans ces milieux où il y a du pouvoir, c'est pas compliqué. Ceux, les mecs qui sont mus et régis par une sexualité borderline et détraquée, on va dire, eh ben ils font du sale. C'est pas compliqué. Quand tu vois Woody Allen, Quand tu vois Jack Lang, quand tu vois P. Diddy, quand tu vois Epstein lui-même, c'est des mecs, ce sont des obsédés sexuels. Mais c'est pour ça que l'obsession et l'addiction à la sexualité, c'est mal vu. C'est parce qu'en fait, pour la personne, on va dire, normale, innocente, etc., quand tu t'intéresses à une personne avant de penser à la consommer charnellement, et bah, t'as de l'empathie, tu fais attention à sa sensibilité, tu te demandes si elle te plaît, etc. et tout. Mais quand t'as énormément de pouvoir, que t'es un but de ta personne, que t'en as plus rien à faire et que t'es addict et obsédé, et que tu es juste dans la consommation, et ben forcément tu vas avoir beaucoup moins d'empathie, t'en auras plus rien à foutre de la morale ni rien, et tu vas juste vouloir consommer et être réfractaire à toute frustration. C'est pour ça que je crois que ça s'appelle, c'est un péché capital. C'est-à-dire, l'addiction S, c'est un mélange entre la gourmandise et la luxure en réalité. C'est parce que si t'es trop puissant, tu vas faire du mal aux autres parce que t'auras plus d'empathie, tu seras juste dans la consommation, et si t'es pas puissant et que t'as accès à rien du tout, tu vas toi-même être un frustré ou finir par faire une dinguerie dans un métro parce que tu seras frustré de ta journée. Donc voilà où ça mène l'addiction sexuelle dans les milieux d'élite. C'est par rapport à ça que ça fait du mal à des gens. C'est un mécanisme psychologico-sexuel et tout. Il n'y a pas besoin de mettre du baphomet là-dedans. Pas besoin de mettre de la franc-maçonnerie d'ailleurs. Chacun peut faire son introspection lui-même. En réalité, pour comprendre les mécanismes de prédation et de consommation et de manque d'empathie, etc., pensez juste à vous-même et au sale caractère que vous avez. Par exemple, quand vous êtes drogué à un jeu vidéo et que votre daronne, elle vous dit c'est l'heure de manger et que vous pétez un câble, vous dites non, je dois sauvegarder. Vous commencez à péter la manette, à crier sur vos darons, etc. C'est pour ça que l'addiction, c'est un péché. Tout le monde peut être en proie, quand il est dans l'addiction, à devenir une mauvaise personne, à tendre à être une mauvaise personne. Enfin bon, voilà, c'était une petite aparté, mais on revient au sujet. Ce qui drive les élites, de toute façon, c'est pas la morale, on est au nombrilistan. Le problème avec le fait de tout prendre juste sur le prisme moral, c'est que ça fait défaut à l'analytique et à la psychologie réelle. La morale, c'est très facile à la brandir quand on n'a rien d'autre et qu'on n'a aucun autre pouvoir d'action, qu'on est extérieur à une scène et qu'on veut avoir le beau rôle. C'est même pas intéressant, évidemment que c'est de la merde, tous ces gens c'était des crapules, évidemment. C'est exactement comme P. Diddy dans ses soirées. Prenez tous les acteurs qui étaient dans les soirées de P. Diddy. Il y a plein de gens qui savaient les dingueries avec plus ou moins de degrés de nuance dans le savoir morbide qui se passait et la participation de certaines stars. Mais tout le monde savait globalement que c'était un mec, un détraqué qui faisait du mal à des gens, et en fait personne disait rien, alors que toutes les starlettes qui font les mecs progressistes dans les médias, et ben dans le privé ils se comportaient pas pareil, tout simplement parce que dans les médias ils ont un intérêt qui n'est pas le même que dans le privé. Dans les médias, ils cultivent leur image publique, leur image morale auprès du grand public, et dans le privé, ils cultivent leur réseau, ils cultivent leur mondanité, et ils cultivent leur épicurisme. Et parfois, l'épicurisme, il déborde beaucoup de la morale pour aller dans la satisfaction des désirs. Et quand les désirs, ils deviennent illimités, parce que tu fais partie de la haute, et ben, ils débordent beaucoup sur la morale que tu peux avoir par ailleurs en public. Harrison Ford, il a un jet privé qui pollue, et il vient faire avec son jet privé de la moraline sur le fait qu'il faut pas prendre l'avion à des mecs qui le prennent deux fois par an pour aller oublier leur vie de merde et aller prendre des vacances en Thaïlande, ce que je vais faire bientôt d'ailleurs. Donc ce que les gens qui savent, qui savaient mais qui n'ont rien dit font, ils sont comme les autres. Ils travaillent pour leurs intérêts. La morale, quand ils vivent des choses dans leur sphère, l'élément moral, il vient s'incarner dans des caboches faillibles, dans des appareils psychiques sous forme de honte, de surmoi, de malaise, de tolérance, etc. Et voilà. Et la plupart des gens s'accommodent de certaines contradictions qu'ils ont peut-être avec leur morale, leur éducation, machin, pour conserver un esprit fonctionnel et bosser dans le cadre de leurs intérêts. C'est plus facile d'être derrière son écran et de dire ouais, tout le monde savait, ils ont dit rien, tous les élites, tous les gens, c'est des ordures, machin truc. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a à dire de l'affaire Epstein? Il y a une mise en morale de toute une séquence dans le cadre de la construction du narratif d'un feuilleton médiatique pour le Dream de LCI. Des fois, je regarde LCI quand il y avait l'affaire Trump-Iran, Poutine, machin. Mais c'est toujours des émissions de 50 minutes avec des vieux boomers qui viennent raconter, c'est toujours les mêmes titres. Chaque jour, pendant deux mois, ils changent de titre, mais c'est quasi les mêmes choses. Dans les rédactions, ils doivent s'amuser à se dire qu'est-ce qu'on va mettre dans la tronche des vieux boomers. C'est toujours la même chose. Et donc, il y a une construction d'un feuilleton médiatique qui s'approprie une réalité dont tout le monde se foutait un peu au moment où ça se passait. Et en fait, les gens et le public qui est habitué à Netflix, à poser ses fesses et à regarder des informations du Netflix, du je sais pas quoi, il attend que des gens épluchent les 3 500 000 pages de documents, des dossiers là déclassifiés d'Epstein pour voir s'il y a un people, une star ou un philanthrope hypocrite qui finalement aurait fait des threesomes avec Epstein. Voilà, les gens, ils veulent des sensations fortes, c'est tout. Les gens, ils s'attendent à ce qu'on leur dise « Ouais, DiCaprio, il a fait un threesome avec Epstein et je sais pas qui, tu vois. » Les gens sont des badauds du mal, ça pourrait faire un poème de Baudelaire. En fait, les gens sont addicts aux histoires d'hommes puissants et toxiques qui sont addicts aux femmes qui sont elles-mêmes addictes à la reconnaissance, à la pipolisation, à la célébrité. Les mannequins en fin de carrière qui vont un peu dans ces milieux, qui se demandent si elles se jettent un peu dans la gueule du loup, etc. Et la célébrité, considérer la célébrité dans ma démonstration comme une personne, la célébrité est elle-même addicte à nos égos. Et c'est très révélateur, à nos égos qui ne veulent pas être égaux. La célébrité, c'est sortir de la masse, étymologiquement, c'est entrer en connaissance. C'est extrêmement révélateur, il y a une antinomie dans l'homonymie. L'ego ne veut pas être ego, et Pascal ne veut pas être le grand frère. Et il a dit, tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne savent pas rester tranquillement dans leur chambre sur une chaise et attendre et méditer. Et bien pour me prémunir du malheur et en hommage à Pascal, c'est ce que je fais présentement. Je suis dans ma chambre, posé sur une chaise et j'attends. Heureux les humbles. Le philosophe apprend l'humilité au monde. Je suis universaliste. Univers, ça veut dire tourner vers l'un. Je suis universaliste, monsieur, je m'identifie à l'univers en personne. C'est pas beau ça, Joline?